Ce matin, ensemble, on va faire une petite continuité. Vous savez, cet été, on a parlé ensemble de certains sujets qui sont, ma foi, d'actualité, j'espère. Mais dans tous les sujets qu'on a regardés ensemble cet été, il y a un côté, et vous, ceux qui me connaissent un peu plus, vous allez comprendre, il y a un côté qui est très cérébral. Hein? Essayer de comprendre pourquoi Dieu nous a donné des choses autant spéciales, intenses et bénéfiques comme la sexualité, le mariage, et qu'est-ce que ça veut dire au niveau biblique. Mais parfois les gens, et c'est une question qui revenait souvent, c'est bien beau comprendre et se faire enseigner tout ça, mais ça change quoi? Hein? Au niveau pratique, là, qu'est-ce que ça change que je comprenne maintenant un petit peu plus, Dieu voulant, toutes les implications de ce don-là que Dieu nous a donné, que ce soit au niveau de l'Esprit-Saint, comme on a parlé début juillet, ou au niveau du mariage et de la sexualité. Qu'est-ce que ça change d'avoir un peu tous ces dons-là, ces cadeaux-là de Dieu, et qu'est-ce qu'ils veulent dire d'une façon plus profonde pour notre foi? Et à travers tout ça, j'ai beaucoup prié cet été, beaucoup cherché la face de Dieu sur les différentes façons que les croyants sont appelés à chercher la face de Dieu et comment est-ce qu'on prie ou on demande des choses à l'Éternel. Et quelles sont les choses qu'en tant que chrétien, parfois on demande à Dieu qui n'ont pas vraiment rapport, des choses qu'on a déjà en Jésus et que là, parce que je passe par un moment difficile, j'ai un doute et là, je recommence à demander ces choses-là à Dieu et j'oublie de demander ce dont j'ai vraiment besoin. Et ce matin, l'objectif que j'ai, c'est de faire une différence entre ce qui est instantané, ce qu'on a ce qu'on a par la foi, au moment où je mets ma confiance en Jésus, au moment où je lui donne ma vie, au moment où j'abandonne toute résistance, qu'est-ce que Christ me donne instantanément que je ne peux pas perdre, qui est rassuré dans sa main, qui est une certitude parce qu'il est Dieu. Et non parce que j'ai cru. Parce qu'il est Dieu, il me garde. Quelles sont ces parties-là de la foi qui sont instantanées, inchangeable et impossible de m'enlever? Et quelles sont les choses pour lesquelles je devrais vraiment prier? Parce qu'il y en a pour lesquelles je peux adorer, mais quand je tombe en questionnement, puis en demande, puis en requête, ça peut être étrange. Mais quand je sais qu'est-ce qui est progressif, et par progressif, on va le regarder ensemble, sur quoi est-ce que je suis appelé à travailler en tant que croyant? Et pour faire la différence, on va s'ancrer, si possible, dans la parole de Dieu. Et on va voir les moments où, principalement, l'apôtre Paul nous écrit, « Nous avons, nous sommes, Christ a gagné. » Les moments où il parle au présent, où il est vraiment clairement en train de nous dire et de nous annoncer que ça, c'est fait, c'est terminé. Rien de ce que tu vas faire en tant que croyant, qu'il soit bon ou mauvais, ne peut changer parce que c'est l'œuvre de Christ qui est imputée à ta vie. Et ça, c'est l'instantané, c'est l'ultime. Mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où les apôtres et tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu nous enseigne à dire « combat, tiens ferme, comprends, cherche. » Et là, on est appelé à entrer dans un combat. Et la réalité, c'est que ce combat-là, il est extrêmement difficile. C'est le combat de mourir à soi-même. Et c'est le combat de faire confiance aux outils que Dieu nous donne qui vont aller attaquer toute racine d'orgueil ou toute racine de confiance en moi-même. Et ensemble, j'espère qu'on va être capable de s'ancrer, de regarder vraiment la différence entre les deux et l'étape que tout croyant doit arriver à franchir, qui est d'abandonner ce qui est le plus dur pour nous. Et on va regarder ensemble, en fait, ce matin, voici le petit plan qu'on va avoir ensemble, si je suis capable d'enlever la manette. Voici le plan de ce matin, une petite introduction ensemble. On va regarder ensemble, et ce ne sera pas une liste exhaustive, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ensemble les petites choses qu'on sait par la parole de Dieu qui sont instantanées. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par instantané. On va prendre un temps ensemble pour regarder vraiment... Ah, j'avais mis mes feuilles à l'envers. On va prendre un temps pour regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire par l'instantané. Qu'est-ce que Jésus a gagné pour moi? Ensuite, on va regarder ensemble qu'est-ce que je veux dire par les choses qui sont progressives, qu'on parle de sanctification progressive, qu'on parle de révélation progressive, qu'on parle de compréhension, d'ancrage, qu'on parle aussi de victoire sur les péchés dans ma vie. Et là, on va regarder ensemble, regardez bien le dernier point, le processus est un but en soi. Parce que moi, je suis un homme qui aime savoir pourquoi. Et quand on comprend pourquoi Dieu nous a mis sur un processus autant profond, tellement intense, on va comprendre pourquoi Dieu nous donne l'Église, des frères et sœurs, la prière, la louange. J'espère ce matin ensemble qu'on va être capable de tomber en adoration devant le plan parfait de Dieu. Et comment on va être capable de prendre le point de dire ma vie, que ça aille bien ou mal, facile, difficile, quelque chose que je suis capable de contrôler et quelque chose que je dois abandonner, que peut-être l'appel de Dieu sur ma vie, c'est d'enlever les barrières que j'ai mis qui me permettent de contrôler quelque chose que Jésus veut déraciner de ma vie complètement. Il ne veut pas que je le contrôle, il veut l'enlever. Qu'on voit toute l'espèce d'appel profond sur nos vies et qu'on voit comment, en Église, on va pouvoir grandir, comment j'ai besoin les uns des autres, comment j'ai besoin de Jésus encore plus et comment certaines facettes sont scellées en lui. Et c'est pour ça que je peux avoir confiance dans son œuvre. Tout le monde me suit? Ça commence bien. Je vous invite encore une fois, dernière fois, à vous lever. On va remettre ce temps, ce message ensemble. Et ensuite, je vais vous lire Éphésiens chapitre 4, qui sera notre ancrage ce matin. Mais juste avant, on va remettre ce temps-là au Seigneur. Seigneur Jésus, merci ce matin pour ta parole qui nous parle. Merci ce matin parce que, Seigneur, il y a des choses que tu t'es acquises par ton œuvre parfaite. À la croix, Seigneur, tu as gagné. Sur la mort, tu t'es racheté un peuple. Tu as payé le prix parfait. Et Seigneur, plus on plonge les regards dans nos péchés et qu'on voit à quel point on est déchu, à quel point on est loin de toi, à quel point on est même ennemi de toi par nos actions. Tu nous appelles à tourner les regards ensuite pour pouvoir regarder à Christ, à notre Sauveur. À quel point sa vie avait une valeur infinie, à quel point son sang qui a coulé pour nous, son corps qui a été brisé avait tellement une valeur éternelle que ça vient effacer, enlever et purifier des pécheurs comme nous. Seigneur, tu nous appelles aussi à vivre une vie conséquente, à réaliser, Seigneur, nos besoins de toi sur toutes les facettes. Et Seigneur, merci que c'est un processus. Car personne ne survivrait à se voir comme on est vraiment. Merci de prendre du temps pour nous. Et Seigneur, ce matin, parle-nous par ta parole, dirige-nous. Et Jésus, vraiment, sois béni et que cette Église soit un témoignage vivant de qui tu es, de ce que tu as fait et de ton amour pour tous. Merci Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles à Éphésiens chapitre 4. Et j'aimerais commencer au verset 11, mais principalement verset 12, mais vu que la phrase commence au verset 11, ça ne ferait pas de sens. On va regarder ensemble Éphésiens 4, 11. « C'est lui qui a donné, on parle de Jésus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qu'il convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Cet été, j'ai pris le temps de me questionner sur une chose. Quand je prie pour quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui m'est dû ou est-ce que c'est une demande d'aide humble au Seigneur? Parfois dans nos prières, et moi le premier, je demande des choses à Dieu, des choses qui, peut-être dans une compréhension, je pense que Dieu me doit ça. Avez-vous déjà prié avec cette espèce de sentiment-là? Je vais m'approcher du Seigneur en disant, « Seigneur, tu me dois ça. J'ai cru, maintenant, donne-moi ça. » Bien humblement, j'aimerais vous dire que parfois, même si on ne le croit pas, on s'approche du Seigneur avec cette attitude-là. Du Seigneur, et moi, je l'ai vu parfois par les fruits de l'esprit qu'on voit dans Galates. Fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, bienveillance. Et là, on s'attend à dire, « Seigneur, je suis un chrétien, donne-moi ça. J'ai besoin de ça pour être un chrétien. » Parce qu'un chrétien, ça a les fruits de l'esprit. Right? Et là, on approche le Seigneur et, bon, exemple, dans ma vie, je n'ai pas la joie facile. « Seigneur, donne-moi la joie. » Pensez-vous que ça marche? Est-ce que je suis le seul à faire ça? Oui, OK. Mais vous voyez, et cette question-là, est-ce que c'est un dû? Est-ce que Dieu, Marco, là je me pose la question, Marco, est-ce que Dieu te doit d'être joyeux? Mais pourtant, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai le droit de demander à Dieu la joie dans ma vie? Oui. Est-ce que c'est un dû? Non. Et là, voici où on va regarder ensemble comment est-ce que ce questionnement peut changer la donne. Parce que, je vous donne un petit spoiler, ma recherche de la joie ancré dans la parole de Dieu, par les outils donnés par Dieu, devient un témoignage puissant que, un, je n'y arriverai pas, et que, deux, je trouve toute ma confiance, ma joie, ma paix et tout, en Jésus. Et le chrétien qui cherche et lutte et avance devient un outil puissant dans les mains du Rédempteur pour toucher ses frères et sœurs à côté d'eux. Si le Seigneur ne nous faisait pas entrer dans le processus, honnêtement, il n'y aurait pas beaucoup d'évangélisation. On serait un témoignage assez spécial. Parce que les gens autour se questionneraient vraiment sur qu'est-ce qui se passe. Si tout était instantané, je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà vu quelqu'un de parfait? Si vous dites oui, il est dans le trouble. Il y en a un dans l'histoire. Et ça donne que pas grand monde qui l'aimait finalement. On parle du Seigneur Jésus. Et à part les disciples, à part les gens qui ont formé l'Église, il y a une haine envers Jésus, profonde et inexplicable, même dans notre monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, sans savoir pourquoi, détestent le Seigneur Jésus avec une passion incompréhensible. Ils ne détesteront pas les autres. Mais Jésus, il y a une attaque. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde de Satan. On vit dans le monde de l'ennemi. Et donc, quand on se pose la question, est-ce que les choses que je cherche est un dû? Et parfois, dans nos prières, on peut avoir des attentes qui sont impossibles. Et là, je ne parle pas de prier avec foi pour des choses, mais bien d'avoir cette idée que les choses sont un dû ou que parfois même questionner Dieu sur des choses, on pense qu'on va s'attirer les foudres de Dieu. Je ne peux pas questionner le Seigneur. Voyons, il ne peut pas faire ça, c'est Dieu. Il ne sera pas content. Qui suis-je pour questionner le Seigneur? Et pourtant, si on prend le temps de lire les psaumes dans l'Ancien Testament, David questionnait souvent l'Éternel. Mais il questionnait ancré dans la parole de Dieu, sachant très bien les réponses. Et là, pendant qu'il déversait son cœur, le Seigneur pouvait apporter un baume et l'amener en adoration. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'espère vous démontrer un ancrage que, à travers les écrits de Paul, qu'on ne nommera pas parce qu'on serait là ici ce soir encore, on peut voir comment Christ s'est gagné un peuple. Il y a des choses, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, l'instantané. C'est l'instantané inclut tout ce qui a été gagné par Jésus dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que nous savons être gagné par Christ nous est maintenant imputé. Donc, ce que lui a fait vient prendre la place de ce que moi j'ai fait. Ce que lui est par sa vie parfaite vient à être imputé à mon dossier imparfait. Et nous sommes maintenant capables d'avoir accès à Dieu par tout ce que Jésus s'est acquis par sa vie, sa mort et sa résurrection. Amen. Et ces choses-là sont instantanées. Si vous prenez le temps de tourner avec moi rapidement dans Éphésiens au chapitre 1, vous pouvez juste tourner la page. Verset 7. Ça nous dit, en lui, en Jésus, nous avons, indicatif présent, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, de réunir tout sous un chef, le Christ. En lui, verset 11, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère selon sa volonté, afin que nous servions à sa gloire. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Maintenant, ici, on est au passé. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Christ a accompli toutes ces choses-là. La rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, d'être mis à part, sanctifié, d'être scellé par l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Donc ce matin, je prends en considération que par les actions de Jésus, par sa résurrection, par son sang. Et ça, on le voit dans l'Ancien Testament. Comment les sacrifices sont organisés par Dieu pour être une image de ce qui s'en vient. Et on le voit à travers la mort de Jésus dans la Passion, toute la semaine avant, comment Jésus a préparé des choses, a dit des choses et comment les choses sont arrivées. Et là, je vais le dire comme ça, mais vous comprenez, hors de son contrôle, même s'il est en contrôle de toutes choses, elles sont arrivées parfaitement selon l'ordre que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, dans des temps parfaits, dans un exemple parfait. Et le Seigneur Jésus, à travers ça, est, par sa vie, sa mort et sa résurrection, il s'est acquis un peuple. C'est son œuvre, c'est sa job qui a été efficace. C'est vraiment lui qui devient l'ultime gagnant et celui qui a fait les choses. Le deuxième petit point qu'on peut regarder, c'est aussi ce qui nous est donné par le don de l'Esprit-Saint en nous. Et c'est quelque chose qu'on a parlé un peu dans le passé, mais ce qui nous est donné par l'Esprit, et on en a parlé un petit peu au verset 13 du chapitre 1, c'est ce sceau, c'est cette assurance que Dieu travaille en moi. Je l'ai par la présence de l'Esprit en moi. Et comment est-ce que l'Esprit se manifeste? C'est propre à chacun, c'est les dons de l'Esprit. Et donc, un croyant qui n'exerce pas son don, qui ne connaît pas son don, on en a déjà parlé, mais a le droit de se questionner. Mais on est appelé à chercher, trouver nos dons. Mais tout ça se fait par l'Esprit de Dieu en nous. Je ne peux pas produire par moi-même un don spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Je peux essayer plein de choses, mais je ne peux pas le produire. Et parfois, Dieu nous appelle à faire des choses qui sont littéralement le contraire de votre personnalité. J'en suis un exemple. Je suis très gêné dans la vie, ça paraît pas. Mais Dieu m'appelle à enseigner la parole de Dieu. Et si vous regardez un petit peu, vous n'êtes pas obligé, mais le matin, je shake, puis j'ai chaud, puis c'est pas facile. Mais Dieu, c'est un appel. Et peut-être c'est un appel sur vos vies. Peut-être que il y a quelque chose en vous qui travaille. Ça peut être de prendre soin des gens, ça peut être de prier pour des gens, ça peut être d'avoir un ministère d'intercession, ça peut être d'aller bâtir des maisons. Peu importe, si Dieu et l'Esprit-Saint vous parlent, vous allez avoir la certitude. Et tout ce qui nous assure de la présence de Dieu, qui nous assure qu'on est vraiment les récipiendaires de ce que Jésus a fait pour nous, on le gagne par l'Esprit. Et ça, c'est des choses qui arrivent instantané. C'est l'Esprit qui nous convainc de notre besoin de Jésus. C'est l'Esprit qui nous convainc qu'on est pécheur. C'est l'Esprit qui nous amène à nous humilier et à accepter le Seigneur Jésus. Amen. Et une fois que c'est fait, on tombe dans le progressif. Et dans l'instantané, tout ce qui se passe dans notre vie, voici comment je vois que la parole de Dieu et l'apôtre Paul nous enseigne à prier. On peut demander à Dieu de mieux comprendre, de mieux ressentir ou être touché et transformé par les vérités qu'on va trouver dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça la base de la foi. Je l'ai. Je ne peux pas demander à Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. Mais non, je l'ai déjà. Comprenez-vous? Et il y a un verset qu'on aime bien lancer à tort et à travers dans nos églises, c'est « L'Esprit transforme nos prières car nous ne savons quoi demander. » Vous avez déjà entendu ça? Et le but, c'est que parfois, on demande au Seigneur des choses parce qu'on manque de mots, parce qu'on ne sait pas comment s'exprimer. Mais parfois, c'est vraiment cette idée-là, c'est correct, c'est pas mal en soi. Sauf que, on est appelé à prier et à chercher des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Et j'espère qu'on va être capable ensemble de voir ces choses-là ce matin. Donc, pour ce qui est de l'instantané, vraiment, c'est important qu'on comprenne que c'est vraiment tout ce qui nous est donné, mais qui a déjà été gagné par Jésus. Et que je n'ai pas d'impact par ma vie sur ces choses-là, excepté de croire et de lui faire confiance. Mais ça, on tombe dans le progressif. Qu'est-ce que je veux dire par le progressif? C'est la réponse normale d'un cœur racheté. C'est quoi la réponse normale d'un cœur qui a été touché et transformé par Jésus? C'est large, hein? Vous ne savez pas quoi répondre, c'est normal. La réponse normale d'un cœur racheté, c'est d'entrer dans le processus de marcher avec Jésus. C'est d'entrer dans le processus de mourir à moi-même. C'est d'entrer dans le processus de laisser Dieu aller travailler là où ça pique, là où c'est difficile, là où ça fait mal. C'est d'amener Jésus les deux pieds dans mon péché, dans ma bouette, dans, appelez-le comme vous voulez, et de dire, Seigneur Jésus, enlève tout ça. Ça va faire mal, il y a des racines. Avez-vous déjà essayé de débarrasser votre terrain des pissenlits? Non, hein? Ceux qui ont essayé savent que c'est accepté par une guerre chimique interdite dans 48 pays. On ne gagne pas vraiment le combat contre les pissenlits, hein? Mais voyez-vous, la réponse normale, si on compare nos péchés à un champ de pissenlits, c'est d'entrer dans le combat difficile, de prendre l'outil que le Seigneur Jésus nous donne et d'enlever les pissenlits jusqu'à la racine, un par un. Et puis là, quand tu commences à avoir fait la moitié du champ, tu réalises que ça a recommencé à pousser au début. Et puis là, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide. Puis là, il vient t'aider. Et c'est d'entrer dans le processus. Mais c'est la réponse normale. C'est ça qu'un cœur racheté va faire. Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Et c'est une vie complète. Et là, qu'est-ce que je veux dire par une vie complète? C'est que, voyez-vous, dans la parole de Dieu, on lit souvent, et il y a les théologiens en parlent, c'est cette idée qu'on a un vide. Hein? Vous avez déjà entendu cette image. Tout le monde a un vide en forme de Dieu dans son cœur. Et on essaie de le remplir par plein de choses. Si vous n'avez pas entendu ça, vous venez de l'entendre. C'est une image où chaque personne essaie de combler un vide dans nos vies. Ça peut être un vide physique, une blessure, des difficultés. Ça peut être un vide émotionnel, de l'amertume, de la rancœur. Ça peut être un vide cérébral. On a des difficultés à comprendre des choses. Et une vie complète, c'est de prendre le Seigneur Jésus, l'Évangile, et d'aller, encore une fois un anglicisme, désolé, all in. Toutes mes œufs dans le même panier. Pas d'autre questionnement que de dire, Seigneur, tu me dis par ta parole, par les œuvres que tu as faites en Christ, par les dons que tu me donnes par l'Esprit-Saint, par l'Église, tu me dis que c'est en toi et seulement en toi que je vais être complet. Et en étant capable de s'humilier et d'aller là, je vais commencer à vivre une vie complète. Et la vie complète, elle est lentement transformée. Pourquoi lentement, selon vous? Moi, j'aimerais vous dire que c'est déjà difficile pour moi quand je fais une erreur ou une niaiserie. Inquiétez-vous pas, j'en fais pratiquement jamais, là. Mais c'est déjà difficile pour moi d'accepter. Et pour ceux qui me connaissent, même si je reconnais ma faute, je vais pogner les nerfs. Je vais bouder. Je vais faire bien des affaires, mais ça va être long. Et ça, c'est une chose. Tu sais, c'est ce qui arrive une fois par mois. Non, c'est pas vrai. Mais une chose, j'ai de la misère. C'est difficile. Imaginez si le Seigneur me montrait tout en même temps. C'est fini, là. Hein, on tombe à terre puis on pleure en petite boule pendant des mois, là. Ou on se met en colère, ou peu importe. Mais voyez-vous, c'est cette idée-là. Quel témoignage est-ce que je peux faire aux gens autour de moi? Mon épouse, mes enfants, t'es clairement, ils vont me voir bougonner. Clairement. Mais les outils de Dieu sont lesquels? Et là, je peux-tu être un témoignage? Est-ce que je peux être un outil dans les mains du Rédempteur afin de toucher les autres? Et cette transformation-là doit avoir lieu dans nos croyances, nos émotions et nos pensées. Et là, dans l'Église, on est habitué de parler de d'avoir une transformation de nos croyances. Vous étiez du monde, maintenant vous êtes en Christ. OK? Et là, n'ayez point les pensées du monde, mais les pensées du Seigneur. Soyez renouvelés dans votre intelligence, dans Romains. Et là, on le voit souvent. L'important, ce n'est pas les actions, c'est d'être une nouvelle créature. Qu'on voit dans Éphésiens un petit peu plus loin, on le voit aussi dans Galates. Et là, on accepte que Jésus doit transformer nos croyances. Ça, on l'accepte. Mais Jésus doit aussi changer mes émotions. Jésus doit aussi changer mes pensées. Et là, plus on est émotionnel ou plus on est introverti puis pogné dans notre tête, plus on arrive avec des défis. Et plus on est souvent, on tombe dans cette idée-là. En fait, c'est plus qu'une idée, on tombe dans cette habitude-là, j'aimerais vous dire, d'avoir mis des barrières, un peu comme les Juifs qui avaient ajouté à la loi. Je me crée une barrière, une forteresse par laquelle je vais être capable de remplir ce que je crois être le standard de Dieu pour mon contrôle émotionnel, pour mon contrôle de pensée, pour vraiment garder les croyances que je vais penser saines. Et là, au lieu de vraiment laisser à Dieu toute la place, ce qui veut dire le laisser avoir accès par les outils qu'on va parler ensemble, bien, je fais confiance à ma boîte. Et j'aimerais vous dire, quand ça fait 10, 15, 20 ans que vous avez fait une boîte, que votre boîte fonctionne très bien, que vous avez mis des décorations sur votre boîte et que vous êtes bien dans votre boîte, la journée où le Seigneur dit « ta boîte, j'en veux plus », puis là, il rouvre la boîte, il enlève la boîte, puis là, il dit « là, aujourd'hui, on deal avec ça ». Pensez-vous que c'est le fun? Mais savez-vous quoi? Je crois, et vous pouvez être pas d'accord, mais je crois que l'Église stagne en Amérique du Nord, au Québec, Trois-Rivières, dans ma maison, à cause que je crois en moi, je crois en ma boîte, je crois en mes capacités de plaire à Dieu. Et je base ma vie afin de protéger ma boîte. Et Dieu, lui, il dit, Marco, enlève ta boîte. Des fois, il dit, ferme ta boîte, mais... Dieu va me dire, Marco, ce que tu t'es mis comme défense, ça n'a pas lieu d'être. Quelle est ta défense? Voici... L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon défenseur. Christ s'est acquis un homme, faible et stupide, oui, mais Christ s'est acquis un homme. Il va te transformer. Fais-lui confiance. Et savez-vous quoi? C'est dur, mais c'est obligatoire. C'est le progressif. Et voyez-vous, le progressif, là, c'est une mise en action du changement. Lisons le restant du chapitre 4. Voici donc ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, verset 17, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à des dérèglements pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité selon son prochain. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, clameur, colère, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. Soyez donc, écoutez ça là, soyez donc les imitateurs de Dieu. Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est une grosse commande, là. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Paul l'exprime si différemment. Il dit, si je puisse servir de libation au sacrifice de Christ, qu'il en soit ainsi. Une libation, pour ceux qui viennent d'apprendre un nouveau mot, c'est quand le sacrifice était mis par le grand prêtre, il était sur l'autel, était pendant qu'il brûlait, quand tu voulais faire une libation, tu prenais une huile d'un grand prix, une huile parfumée, et tu allais la verser sur le sacrifice, afin que le sacrifice ait une odeur spéciale. Et là, si on peut servir de libation à l'amour de Christ, on va être un outil efficace. À quel point c'est difficile d'accepter de mourir à soi-même et de servir de libation. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mais voici. Est-ce que je devrais exiger ces choses-là? Non. Exiger d'avancer plus vite est une erreur qui va amener un découragement. Humblement, patiemment, faire confiance à Dieu va être la clé. Le processus est un but en soi et c'est le dernier petit bout. J'aimerais être extrêmement pratique ce matin avec ce point. J'aimerais vous dire premièrement que le but ultime, si vous tournez dans Galates 4 au verset 19, Galates chapitre 4, verset 19, Paul parle de son amour et dit « Voici pour vous, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc le but de tout ce processus-là, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit formé en nous. Et j'aimerais vous dire que dans le processus, Jésus a acquis une chose importante. Jésus s'est occupé de la condamnation. Il n'y a maintenant donc, Romains 12, plus aucune condamnation. Romains 12 ou Romains 8, je suis désolé. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus va enlever les conséquences. Et parfois, le chrétien demande au Seigneur d'enlever les conséquences. J'aimerais vous dire que ça arrive rarement. Des fois, ça peut être une grâce. Mais le chrétien grandit en faisant face aux conséquences avec Jésus. Et c'est là qu'on grandit. Mais j'aimerais prendre un temps avec vous. Le processus, c'est un but en soi. Notre vie sur terre devient un puissant témoignage. Voici les outils qu'on connaît sont la prière, la parole de Dieu, la louange, la communion fraternelle. Ce sont les outils que Dieu donne aux croyants pour gagner. Et la vie chrétienne se vit activement attachée à Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'on est maintenant libre. Et cette liberté-là, c'est pas on est libre de faire ce qu'on veut. Non, non, je suis maintenant libre de répondre autrement que par le péché. Voyez-vous la différence? Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. C'est que sans Christ, je vais répondre par le péché. Toujours. Toujours. Même mes bonnes choses. Je vais répondre par le péché. En Christ, je suis libéré de cette servitude et j'ai maintenant la capacité de répondre par l'Évangile. Est-ce que c'est pas beautiful? grâce à Dieu, parce que Jésus s'est acquis quelqu'un, qu'il a mis en lui son esprit. J'ai maintenant la capacité de répondre bibliquement, divinement et selon l'évangile de Jésus aux attaques du monde. Et voici ce qui arrive. Je vais manquer mon coup. Ça arrive. Et en cas d'échec, je vais appliquer les outils suivants. L'humilité. Avoir l'humilité de réaliser mon incapacité à vivre. Et le processus étant un but en soi, c'est que chaque croyant doit vivre les choses. Et là, je vous ai fait un ordre rapide, c'est pas exhaustif. Mais premièrement, on va réaliser qu'on est dans le péché. Et réaliser qu'on est dans le péché, savez-vous quoi? C'est pas donné à tout le monde. Des fois, je peux faire des choses pendant des années, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, « Ben, pourquoi tu fais ça? » Je veux pas. C'est une réponse très profonde. Mais j'ai jamais réalisé que c'était un péché. Et ensuite, il va y avoir un moment où on va devoir se repentir. Seigneur, c'est un péché. Seigneur, c'est inacceptable dans ma vie. Seigneur Jésus, j'ai jamais réalisé, je ne veux pas perdre ma sensibilité à l'Esprit. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que l'Esprit Saint scelle le croyant. Et le croyant qui dit, moi j'ai plus de péché, confond son statut devant Dieu que Christ a gagné. C'est Christ qui l'a gagné, pas moi. Et je suis malheureusement encore pris dans ma lutte progressive avec le péché. Je deviens un puissant témoignage quand j'abandonne mon orgueil et que je laisse Jésus travailler. Une fois que je vais avoir réalisé mon besoin, je suis appelé à plus. Je suis appelé à plus que ça. Je ne peux pas rester où je suis. Si je reste là, je ne me repens pas. Je réalise. Si je reste à réaliser que c'est un péché et que je ne dis pas « cette chose-là est une nuisance », ça se dit-tu?
Oui.
OK. Cette chose-là est nuisible, je ne vais pas perdre l'Esprit Saint. Je suis scellé, c'est Dieu, c'est Christ qui travaille en moi. C'est Christ qui m'a donné l'Esprit. Je vais perdre ma sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu va me diriger quelque part, je vais dire non. Parce que je suis insensible. Parce que j'ai perdu la relation avec l'Esprit. J'ai fermé mes oreilles, je vais là, 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 là. S'il y en a qui ont des enfants, là. Hein? On le fait tout. Moi le premier. Mais après une réalisation et une repentance, on va avoir une réflexion. Pourquoi? Et c'est là que le chrétien est appelé. Et c'est là, je crois, où on a de la difficulté en tant que chrétien, des fois, à aller là. Moi le premier, OK? Pourquoi, Seigneur, je reste dans mon péché? Qu'est-ce qui vient chatouiller mon âme à un point où je vais accepter de te cracher dans la face, Seigneur, au lieu d'abandonner mon péché? Qu'est-ce qui chatouille assez? Et là, c'est propre à chacun. OK? Quelle blessure fait que tu vas pogner les nerfs à ce point-là? Oui, Seigneur, j'ai pogné les nerfs. C'est facile à dire. Ah oui, j'ai fait une erreur. OK. Pourquoi, Marco, tu fais une erreur? Pourquoi ça fait mal? Oh, on va pas là. Il y a une boîte dans le coin, là. Ah, non, on va aller voir ça. Ah, Seigneur Jésus, va pas là. Non, c'est là qu'on s'en va. Voyez-vous, aller un pas plus loin. Faire confiance à Jésus. Après la réflexion, je dois avoir une confession. Je sais qu'on ne l'aime pas, ce mot-là. Mais mon action doit être confessée. J'ai fait ça. Mon attitude, j'ai fait ça parce que j'étais irrité, j'étais fâché. Ma croyance, pourquoi? Et souvent, dans mon cas en tout cas, c'est aussi banal que « ben, je ne mérite pas ça ». Et dans ma tête, je me suis convaincu, là, je suis clairement convaincu. C'est pas juste, une injustice. Moi, je vis beaucoup avec la colère, là, fait que vous allez reconnaître des mots, ceux qui ont déjà fait du counseling. Là. Mais là où des fois je vais avoir un petit problème, c'est mon émotion. Moi, en tout cas. Peut-être que vous autres, c'est différent. Mais toutes ces choses-là doivent faire partie de ma confession. Et là, ça peut devenir difficile. Mais vous en parlerez à n'importe qui s'est débarrassé de certains problèmes profonds, ancrés en eux. Mes actions, mes attitudes, mes croyances et mes émotions doivent faire partie de ma confession. Comment je fais ça? J'entre dans le processus. Est-ce que ça se fait tout one shot? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est le fun? Oh non. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Non. Parce qu'on n'est pas sauvé par ça. Ça sert à quoi? Ça sert à rester fidèle et proche du Seigneur. Ça sert à être capable d'entendre sa voix. Ça sert à être capable de ne pas fermer notre boîte quand c'est le temps de parler de l'Évangile, puis fermer notre boîte quand c'est le temps de chialer. Ça sert à ça. Ça sert à être un chrétien efficace qui, quand la tentation va arriver, il va fermer son ordi. Quand la tentation va arriver, il va aller en prière. Quand la tentation va arriver, il va louer le Seigneur au lieu de chialer. Ça sert à ça. Ça sert à être un chrétien et un témoignage efficace. Pourquoi? Parce que notre vie est scellé en Christ. Notre vie, notre salut, la grâce de Dieu à celui qui fait confiance à Christ, Christ s'en occupe. Et ma foi en Jésus, en l'Évangile, ne changera jamais. Jésus est fidèle, plus que moi. Merci Seigneur, ça ne tient pas sur moi, ça tient sur Jésus. Mais si je veux grandir, si je ne veux pas rester où je suis, on peut se rendre très loin en compréhension mentale. On peut changer nos croyances. On peut changer, des fois même, essayer de changer notre façon de parler, nos actions. Mais Dieu, Jésus, veut transformer tout. Et pour citer quelqu'un, tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire. Voulez-vous que je le répète? Mais Jésus veut avoir accès à tout. Et une fois que j'ai confessé, et c'est pas confessé tout seul dans sa chambre, « Seigneur, entre toi puis moi, là. » Non, non, je vais aller voir la personne avec qui j'ai eu un problème. Je vais aller voir la personne qui m'a peut-être très beaucoup dérangé, si possible, OK? Où je vais trouver des compagnons, des gens fidèles dans le Seigneur. Pourquoi on a l'Église? Pour avoir des gens fidèles dans le Seigneur qui vont dire, « Je t'accompagne. » On va aller ensemble. OK, tu luttes avec ça. Parfait, on va prier ensemble. OK, tu as besoin du Seigneur. Parfait, on va prier ensemble. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui est arrivé? All right, on va donner ça au Seigneur. Qu'est-ce que tu as besoin? On va donner ça au Seigneur. Et là, on va aller faire une demande de pardon, si possible, devant Dieu, devant les hommes. Et si possible, on va chercher la restauration. Et si c'est quelque chose qu'on a fait, on va restituer. Si j'ai volé 5 piastres, je vais donner 100 piastres. C'est un peu extrême, là, mais vous comprenez le principe? Je vais restituer, je vais chercher. Pourquoi? Afin d'être un témoignage vivant. Peut-être que l'Esprit va vous diriger vers d'autres choses, mais au minimum, s'il vous plaît, n'éteignez pas l'Esprit. Faites-lui confiance. Allez dans le processus. Et une des façons de voir la chose, c'est parfois, on se dit, en fait, ici, en Amérique du Nord, parfois, on est tellement bien que même si on a une boîte, ça ne paraît pas bien, bien. Mais on est tellement bien qu'aller au ciel avec Jésus, ça ne nous excite pas bien, bien. Mon nouveau pick-up, oh, malade. Mon nouveau 4 roues, oh, la game du Canadien, bon. Mais vous comprenez l'idée? On est tellement dans le luxe et dans les richesses qu'aller avec le Seigneur Jésus, on est comme, bon, ça va être malade, mais j'espère qu'il va y avoir un skidoo, je ne sais pas. Mais engagez-vous, honnêtement, dans ce qui plaît au Seigneur. Et votre skidoo va prendre le bord. Engagez-vous honnêtement à ce qui fait plaisir au Seigneur. Vous allez voir des choses dans votre vie. Et là, vous allez réaliser des choses. vous allez peut-être devoir vous repentir. Vous allez devoir chercher dans votre cœur, avec la parole de Dieu, avec des frères dans le Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un pasteur, peut-être vous avez des gens dans votre vie, des croyants un petit peu plus âgés que vous. Et ça, c'est en rapport avec n'importe qui. Vous pouvez avoir 60 ans de vie chrétienne, 20 ans, une demi-heure. Ça s'applique à tout le monde. C'est pour ça qu'on a l'Église. Et le processus, c'est le but en soi. Par votre recherche à faire plaisir à Dieu, par la vie que Dieu nous donne, à cause de tout ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait, eh bien, je vais chercher ces choses-là. Je vais entrer dans le processus. Je vais devenir un témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Ma marche avec Dieu devrait être mon premier objectif. Mourir à moi-même, c'est le début. Puis ça arrive à tous les jours. Deux fois par jour, non. Non-stop. C'est dur. Tout le temps. On est des zombies. Non, c'est pas vrai. On veut comprendre. On veut voir. On n'est pas... Vous savez, on n'est pas des gens stupides qui ont besoin d'une béquille. Enlevez-vous ça de la tête. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, c'est parce que vous savez que Christ est vrai et qu'il n'y a rien d'autre qui vaut la peine. Vous donnez la vraie valeur à Jésus. Et ça, ça se voit partout dans votre vie. Ça va se voir dans vos actions, ça va se voir dans vos intérêts, ça va se voir dans vos hobbies, ça va se voir dans vos loisirs, ça va se voir dans votre portefeuille. Vous savez, ça fait drôle de voir que l'Église grandit à tous les ans. On a plus de membres, un petit peu moins de membres. Ça se promène beaucoup. Et il y a plein de gens qui viennent à l'Église par consommation. Ce n'est pas une accusation, c'est un fruit de notre temps. Mais j'aimerais vous dire de faire confiance à Dieu sur toutes les facettes de votre vie, que ce soit des choses difficiles, émotionnelles, ou que ce soit des choses physiques. Faites confiance à Dieu. Et les armes que Dieu nous donne, je l'ai dit tantôt, sont la prière, la parole de Dieu, la louange. Donc, trouvez-vous des partenaires de prière, des gens qui vont passer du temps avec vous. Lisez la parole de Dieu, appliquez-la à votre vie et louez. Les outils donnés par Dieu sont toujours les mêmes. Appliquez-les. Prenez le temps. Cherchez. Demandez à Dieu qu'est-ce qui vous bloque. Demandez à Dieu pourquoi vous êtes stagnant. Vous avez le droit de questionner. Et vous avez le droit de dire au Seigneur, « Jésus, je sais que tu t'es racheté un peuple, mais j'ai besoin de ton aide. Repentez-vous. Repens-toi. Demande à Dieu de t'aider. » Et si on... Voyez-vous cette belle petite phrase-là? On vivons pour Christ et non pour mourir. Si je meurs à moi-même afin de vivre pour Christ, en contraste à vivre pour moi-même afin de mourir sans Christ. Il y a des gens qui se mettent une boîte et qui refusent de vivre parce qu'ils ont peur de mourir ou de déplaire à Dieu. Je vous invite, comme Paul le fait, à mourir à vous-même afin de vivre pour Christ. Ma capacité à grandir est conséquente à ma proximité et mon obéissance à Christ. Vous n'allez pas grandir si vous n'êtes pas proche du Seigneur et si vous ne le laissez pas vous changer. Mes demandes doivent rester fidèles à ce que Jésus veut pour un croyant. Mes désirs personnels, on peut rajouter personnels, restent toujours teintés. Dieu doit faire un ménage. Je vais inviter les musiciens, je vous invite à vous courber, on va prier. Seigneur Jésus, où serions-nous sans toi? Seigneur, ce matin, par ta parole, Seigneur, dans Éphésiens, tu nous montres qu'il y a des choses que tu t'es acquis toi-même. À la croix, Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu as ouvert la porte et tu as envoyé l'Esprit Saint Tu nous scelles par cet Esprit Saint, Seigneur. Tu t'occupes de tout ce qui est positionnel, de tout ce qui est profond, Seigneur, en nous, et de tous nos besoins spirituels. Mais Seigneur, tu nous appelles aussi à vivre pour toi, à nous séparer du monde, à marcher d'une manière digne de la vocation qui est en nous. Et Seigneur, ce processus, on veut s'y engager. Seigneur, ce processus, on te demande de le faire fructifier en nous. Aide-nous à reconnaître où on est, nos besoins. Aide-nous, Seigneur, à nous repentir. Aide-nous, Seigneur, à comprendre toutes les blessures émotionnelles et à te laisser travailler profondément dans nos vies. Aide-nous à enlever les boîtes qu'on s'est mis, les protections qui sont superficielles parce qu'on a peur. Et Seigneur, que tu puisses nous le délivrer de nous-mêmes. Aide-nous à mourir à nous-mêmes, à chercher ta face, à ne pas éteindre l'esprit. Seigneur Jésus, sois glorifié dans nos vies. Seigneur, sois glorifié dans tout ce qu'on fait, que ce soit travail, hobby ou notre façon de dépenser notre argent. Bénis cette Église. Aide-nous à la faire fructifier. Bénis, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous aime. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre pour Christ. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de le faire. Sans toi, on ne serait rien. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.